Bonjour à toutes et à tous au nom de la Bibliothèque publique d'information pour ce nouveau débat que nous organisons à périodicité trimestrielle avec le magazine Books. Je remercie donc Olivier Postelinet avec qui nous avons conçu ce débat autour du cerveau et la machine. Je vous rappelle que ce thème sera à l'honneur dans le prochain numéro de Books du mois d'octobre. J'ai donc le plaisir d'accueillir Hervé Dvir, qui est chercheur en philosophie des sciences et professeur à Paris 7, et Alain Prochian, qui est chercheur en neurobiologie et professeur au Collège de France. Au nom de la BPI et du magazine Books, je les remercie de leur présence. Merci à vous également.
Merci Emmanuel Payen, merci à la BPI de nous accueillir une fois de plus dans ce lieu sympathique. Merci à Alain Prochian et Hervé Svir d'avoir accepté d'animer ce débat. Pourquoi Alain Prochian et pourquoi Hervé Svir? Eh bien, peut-être parce que dans ce débat dans lequel nous allons rentrer entre les spécificités du cerveau et celles de la machine, Alain Prochian est peut-être plus du côté du cerveau et Hervé Svir n'a peut-être plus du côté de la machine. Mais bon, je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce que je dis soit exact. Alain Prochian est professeur au Collège de France. Il a écrit de nombreux ouvrages. Il anime un cours au Collège de France actuellement sur les processus morphogénétiques, c'est-à-dire la manière dont l'organisme. Dont les formes de l'organisme se développent en fonction des gènes, pour aller vite. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Machine-esprit », que je n'ai pas lu, qui a été publié en 2001. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lui ai proposé de venir. Son dernier livre s'intitule « Génétique, évolution et développement ». Donc, il aura certainement des choses à nous dire sur le développement du cerveau et la manière dont le développement du cerveau, notamment humain, mais pas seulement humain, peut ne pas être comparé d'une façon ou d'une autre à la machine, si sophistiquée soit-elle, si sophistiquée qu'on puisse imaginer qu'elle soit. Alain Prochian est aussi un passionné de théâtre, mais enfin, ce n'est pas l'objet de cette réunion. Il monte une pièce prochainement qui est liée aux questions de bioéthique. Et Hervé Svir, lui, est un spécialiste des systèmes complexes. Le cerveau, évidemment, en fait partie, mais lui, il vient plutôt des sciences dures. Il vient des mathématiques et de la physique. Il mène une double vie à la fois d'universitaire. Il travaille notamment à l'École normale supérieure de Cachan, au département de mathématiques appliquées, et d'autre part, une vie d'entrepreneur. Il a créé une entreprise qui s'appelle Eurobios, qui aide les grandes entreprises à faire des calculs complexes. Et il a écrit, il y a quelques années, un livre que j'avais lu à l'époque qui s'intitule « Les limites de la connaissance », un livre assez ambitieux. Il a pas mal travaillé sur la philosophie de la mécanique quantique. Il a publié récemment un livre avec un physicien belge sur ce sujet, Jean Bricmont. Et l'un des points communs entre ces deux chercheurs, c'est leur intérêt et leur passion pour Alan Turing. Alan Turing qui est en fait le point de départ du dossier. J'aimerais bien qu'on montre la couverture du prochain numéro de book, si c'était possible. Enfin, je la vois là, mais normalement elle devrait s'afficher. Bravo, voilà, quand le cerveau défie la machine. C'est un titre, que signifie ce titre? Le point de départ, en réalité, c'est un peu quelque chose d'un peu amusant, c'est le, C'est une compétition qui a lieu chaque année, qui est organisée par un mécène, qui s'appelle le test de Turing, et qui reprend une idée que le grand logicien et mathématicien anglais avait eue il y a maintenant 70 ans, à peu près, qui était de tester... les capacités d'un programme informatique du point de vue de sa capacité d'imiter l'intelligence humaine. Et l'idée, c'est le test consiste à organiser une conversation ou des conversations entre d'un côté des ordinateurs, donc qui fonctionnent avec des logiciels de conversation de plus en plus sophistiqués au fil des ans, et de l'autre des humains, les ordinateurs cherchant à tromper les juges entre guillemets avec lesquels ils conversent, pour les chercher à les convaincre qu'ils ne sont pas des ordinateurs mais des humains, et les humains de leur côté cherchent en toute simplicité, à convaincre les juges avec lesquels ils conversent, évidemment sans se voir, qu'ils sont bien des humains. Et donc, il y a le prix de l'ordinateur le plus humain qui est donné à l'issue de la compétition, et le prix de l'humain le plus humain également qui est donné à la personne qui aura réussi à convaincre le plus grand nombre de juges qu'il est un humain et non pas une machine. Et la prédiction de Turing, c'était qu'aujourd'hui, à peu près aujourd'hui, même un peu plus tôt, en 2000, il écrivait ça en 1950, je le cite, « Je pense que d'ici une cinquantaine d'années, il sera possible de programmer des ordinateurs qui joueront si bien au jeu de l'imitation qu'un interrogatoire ordinaire n'aura pas plus de 70% de chance d'identifier son interlocuteur après 5 minutes d'interrogatoire. » On peut dire que sa prédiction s'est en gros réalisée, c'est-à-dire qu'à peu de choses près, il y a eu une compétition l'année dernière, ou il y a 2 ans, où près de la moitié des juges se sont fait avoir, et donc ont cru, après 5 minutes de conversation, qu'ils avaient affaire à un humain alors qu'ils avaient affaire à un ordinateur. Bon, en réalité, jusqu'ici, l'humain gagne toujours. Et ce qui est vrai, c'est que plus on donne de temps à l'exercice, et plus l'humain a des chances de gagner. D'ailleurs, les règles du jeu ont été changées cette année. Ce n'est pas 5 minutes, mais 20 minutes qui sont accordées aux participants, si bien qu'il est tout à fait certain d'avance que les humains vont gagner à plat de couture. Je vous en prie.
Excusez-moi, je vais vous interrompre. Il faut que vous ayez le micro en main pour parler, s'il vous plaît. Parce que le débat est enregistré, autrement on ne vous entendrait pas.
Et ce serait bien que vous vous présentiez aussi.
Je m'appelle Robert Bouloche, et je suis psychiatre retraité. Et donc la petite histoire est la suivante. Certaines personnes doivent imiter le cri d'un coq. Et parmi ces enregistrements, il y a des cris de vrais coqs. Et on demande à l'assistance de désigner quelles sont les imitations de coqs et quels sont les vrais cris de coqs. Et il se trouve que presque toujours, les vrais coqs sont considérés comme des imitateurs.
Voilà, c'est une jolie histoire que je ne connaissais pas. Et qui peut-être contribuera à nourrir notre réflexion. Et alors dans ce même texte où Turing disait qu'on pourrait organiser ce test, à l'époque c'était impossible, les machines n'étaient pas du tout naturellement, on n'avait pas la sophistication, c'était vraiment prémonitoire, cette idée qu'on pourrait un jour créer ce type de dialogue entre la machine et l'ordinateur. Et dans ce même texte, ou plutôt il commence ce même texte en écrivant ceci, c'est la première phrase du texte. Il dit « Je propose de considérer la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Ce qui implique d'abord que l'on puisse définir les termes « machine » et « pensée ». Et c'est là C'est là l'un des deux volets du débat de ce soir, de notre dossier dans Books et dans le débat de ce soir. Le premier volet étant, mais tout étant lié, effectivement de savoir si on peut considérer qu'une machine peut penser ou qu'une machine pourra penser. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a également le problème de la définition du mot machine qui est en jeu. Et puis de l'autre côté, la question de savoir ce que c'est que la pensée. Et question que posait Turing, mais qui peut être analysée aujourd'hui en des termes très, très différents de ceux qu'il pouvait appréhender à l'époque, puisque en raison des progrès des sciences du cerveau, la question centrale étant pour à la fois de nombreux neurobiologistes et de nombreux philosophes de savoir si l'on pourrait un jour expliquer comment le cerveau secrète la pensée, donc comme on disait qu'il secrète la bile, et comment le cerveau génère la conscience. Voilà, donc on va engager la discussion, peut-être en donnant la parole d'abord à Hervé Svirn pour lui demander de répondre aussi simplement et brièvement que possible, dans un premier temps, à la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Question posée donc par Turing en 1950, à l'époque où les ordinateurs n'étaient encore que les embryons, si j'ose dire, des ordinateurs actuels.
Donc là, je dois donner la réponse définitive avant même le débat, finalement. C'est ça que vous me demandez.
Je pense que l'embryon de réponse que vous allez donner va servir le débat. Normalement, c'est comme ça que je le conçois.
Alors, on va d'abord peut-être définir un tout petit peu plus précisément ce qu'on appelle machine et ce qu'on appelle pensée. Pour répondre à la question, est-ce que les machines peuvent penser? Qu'est-ce qu'on entend par machine? Machine, c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses. Dans certaines conceptions, l'univers tout entier est une machine. À plus petite échelle, et je pense que c'est pas Alain Prochiance qui va me contredire, la cellule vivante est une machine d'une extraordinaire complexité. Mais pour le débat de ce soir, et surtout si on veut rester dans l'esprit de Turing, je pense qu'il faut restreindre assez fortement la définition de ce qu'on entend par machine. Et on va d'abord limiter les machines à des choses construites par l'homme, non pas des choses naturelles, mais des choses construites par l'homme. Et on va même aller un peu plus loin, et on va dire machine, en fait, ordinateur, puisque c'est ça que Turing avait en tête à l'époque. Et ordinateur aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure, je ne vais pas le faire maintenant, mais ordinateur à l'époque de Turing, c'est grâce à Turing qu'on a défini précisément ce que pouvait être un ordinateur, puisqu'il répondait à une question précise que les mathématiciens se posaient à l'époque, qui était de savoir ce qu'était une fonction calculable. C'est pour ça qu'il a inventé l'informatique et les ordinateurs, à travers ce concept de machine de Turing, sur lequel on reviendra. Et donc, dans un premier temps, je propose que, dans la question « est-ce que les machines peuvent penser ?», on restreigne le mot « machine » aux ordinateurs, tels qu'on les connaît aujourd'hui.
J'y inclurai aussi peut-être les robots.
Les robots, mais les robots à condition qu'ils ne soient conçus que comme machines fabriquées par l'homme et animées par des choses à l'intérieur qui sont analogues à des ordinateurs. Voilà. Il est possible, dans un avenir plus ou moins proche d'ailleurs, que nous ayons la capacité de construire des machines qui intègrent des composants biologiques. Je mets de côté ce type de machine pour le moment. On pourra peut-être y revenir dans le débat, mais à ce premier stade, je préfère me limiter aux machines qui sont limitées aux ordinateurs, avec éventuellement des organes de perception, des caméras ou des capteurs, mais en se limitant aux ordinateurs. Alors, si on limite ça aux ordinateurs, maintenant, qu'est-ce que penser? Et là, c'est un problème qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus vaste. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Turing, qui ne voulait pas définir le mot « pensée », parce qu'il se rendait bien compte de l'ambiguïté du terme, Turing avait proposé le jeu de limitation, essentiellement pour éviter d'avoir à dire ce que c'était que « penser ». Et d'une certaine manière, quand il a proposé ce jeu, c'était pour lui un moyen de discriminer si oui ou non on allait accepter de dire qu'un ordinateur pense, sans pour autant s'interroger trop précisément sur ce que c'est que la pensée. Parce que la pensée, ça peut être énormément de choses. On peut penser en disant qu'on raisonne. Le raisonnement est une forme de pensée. On peut penser en disant qu'on perçoit, en disant qu'on ressent des choses, ou en disant qu'on est conscient, voire même qu'on est conscient de soi-même. Et toutes ces choses-là qui sont au niveau de ce qu'on peut appeler penser au sens général du terme ne sont pas du tout identiques quand on y réfléchit. Et Turing, pour ne pas se poser la question, a proposé le jeu de l'imitation, ce qui évite d'avoir à se poser la question. Un des points, et là je ne vais pas y répondre tout de suite, sur lesquels nous reviendrons, c'est le fait de savoir si même en réussissant le test de Turing, on est conduit ou pas à accepter le fait que l'ordinateur pense.
Oui, ça on y viendra.
Et on y viendra plus tard. Oui. Et je dirais même plus, et je vais m'arrêter là, accepter le fait qu'il soit conscient, ce qui est un degré de plus par rapport à la simple pensée.
Mais bon, si on vous pose, si un enfant vous pose la question, les machines peuvent-elles penser, une machine peut-elle penser, vous répondez quoi ?
Aujourd'hui, je réponds que la question reste ouverte, parce qu'il y a énorme... D'abord, c'est une question parmi les plus complexes qu'on puisse imaginer dans la science actuelle. C'est une grande énigme à laquelle personne n'a de réponse définitive. Et il y a énormément d'arguments dans un sens, comme il y a des arguments dans l'autre sens, et je pense que trancher aujourd'hui serait prématuré. En ce qui me concerne, j'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus, très clairement.
À l'an prochain, vous avez... On prononce prochain, hein ? Oui, vous avez... un début de réponse sur cette question ?
Ouais, j'ai un début de réponse. Je pense que c'est une fausse question. Je pense que c'est ce qu'on appelle une question écran, comme il y a des souvenirs écrans. Je pense que la vraie question, c'est les cerveaux sont-ils des machines ? Je crois que c'est la question qui est cachée derrière celle-là, c'est-à-dire que le vivant est-il une machine ? Et là, j'aurais effectivement quelques réponses sur ces questions, c'est-à-dire que j'ai entendu deux choses de vous. Secrète la pensée, le cerveau secrète la pensée, et de mon voisin, la cellule, M. Prochand ne me contredira pas, la cellule est une machine. Mais si, je vais le contredire, je ne pense pas que la cellule soit une machine, et je ne pense pas que le cerveau secrète la pensée.
C'est une vieille plaisanterie. Hein,
c'est cabaniste, je sais bien, mais je pense que
la pensée, comme le foie secrète la bile.
C'est un matérialisme un peu naïf, qui date de cabanisme, bien entendu. Le cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la bile. Mais justement, ce qui est très intéressant, et je crois que d'ailleurs Turing en a tiré des conclusions à la fin de sa vie, en particulier par l'article qu'il a écrit en 1952 sur les morphogènes, qui est un des grands textes fondateurs de la biologie du développement. Mais ça, on pourra revenir là-dessus sur pourquoi il est passé à la biologie en 1952. Et je pense qu'on le comprend mieux si on lit les conclusions de l'article de Mind, les machines pensent-elles, ce qu'il faut faire avec attention. Ce que je veux dire simplement, c'est que la pensée est extrêmement polysémique, c'est-à-dire que selon le domaine de science ou de philosophie dans lequel elle se place, la pensée, le terme pensée n'a pas du tout le même sens. Pour et le terme machine non plus, c'est-à-dire que... comment vous expliquez ça ? Il faut toujours faire référence à une théorie. Alors, une théorie du vivant, ce n'est pas une théorie de la physique. Ou alors, on pense que parce que le vivant est fait de matière, ce que je pense aussi, ce que je sais, je suis athée et matérialiste, eh bien, au fond, la biologie, un jour ou l'autre, sera une physique du vivant. Or, je pense qu'il faut des outils conceptuels très particuliers pour penser le vivant, qui font que les sciences du vivant, même si le vivant est matériel, ne sont pas une science physique. Donc non, le vivant n'est pas une machine, ça c'est la première chose. Quant au terme de pensée, c'est un terme très compliqué, parce que pour un biologiste, la pensée c'est un rapport. C'est le rapport adaptatif entre le vivant et son milieu. Au niveau de l'individu, bien entendu, et au niveau de l'espèce. Alors, ce qui veut dire qu'en fait tous les animaux pensent, les plantes pensent, les bactéries pensent, parce que tous les vivants ont un rapport adaptatif au milieu. Évidemment, pour les mammifères et puis pour nous, évidemment, le cerveau enrichit énormément ce rapport, ce qui fait que le cerveau a une place très particulière dans la définition biologique de la pensée.
C'est comme une conception très, très extensive du mot pensée.
Oui, c'est la mienne. Mais elle a un mérite, elle a un mérite absolu. D'abord, ça veut dire que c'est un rapport, donc c'est pas une substance. Donc il n'y a pas besoin de lui trouver une place. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle n'est pas sécrétée par le cerveau. Donc il n'y a pas d'organe de la pensée. Et la deuxième chose, c'est qu'elle permet d'être très ouvert sur toutes les autres disciplines. Parce que il y a certains neurobiologistes, par exemple, qui voudraient que tout se ramène à la neurologie. Alors on fera la neuroéthique, la neuroéconomie, la neurohistoire, la neuroesthétique, la neuroanthropologie... Donc je pense justement que la biologie doit rester à sa place et qu'il y a d'autres façons d'aborder le phénomène humain ou le phénomène animal avec des disciplines qui sont autres que la biologie. Donc si je vous donne une définition biologique de la pensée, c'est pour ne pas empiéter sur d'autres théories, d'autres définitions qui s'inscrivent dans d'autres théories qui ne relèvent pas de la biologie. Donc oui, les machines pensent, et je crois qu'on peut dire que les machines pensent, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une théorie de la machine. Et je trouve que Turing est un type absolument extraordinaire de ce point de vue. Mais on peut dire que le vivant pense, dans ce qu'on peut penser une définition biologique de la pensée, mais les deux ne se recouvrent pas forcément, même s'ils peuvent se recouvrir de façon partielle. Donc c'est juste ce que je voulais donner comme éclairage. Ce n'est pas du tout polémique, simplement pour bien définir que si on dit que la pensée est polysémique, alors il faut bien comprendre tous les aspects des sens qu'on donne au terme pensée et savoir qu'ils ne sont pas les mêmes dans toutes les disciplines qui utilise ce terme, depuis la philosophie jusqu'aux mathématiques, jusqu'à la biologie, jusqu'à l'informatique, bien entendu.
Alors, bien sûr, quand on pose la question de savoir si la machine peut penser, eh bien entendu, ces problèmes de définition sont essentiels et, comme toujours, compliquent la discussion, mais en même temps la nourrissent. Quand on se pose cette question naïvement, ou même pas si naïvement que ça, on a à l'arrière-plan l'idée est-ce que la machine est capable d'avoir une conscience? Parce que même si Alain Prochon nous dit que les plantes pensent, le sens commun, la notion commune que nous avons de la pensée, est un peu différente. Elle implique la notion de conscience. Et c'est pour ça que c'est un débat très fondamental, il me semble, de savoir si on peut admettre qu'une machine peut être consciente. Mais bien sûr, ça débouche sur la question de savoir si on peut penser sans conscience. Hervé Svirne.
Je crois qu'il est nécessaire d'être plus précis dans ce débat parce que, à partir du moment où on a des termes dont l'acception peut être extrêmement large et comprise dans différentes disciplines, comme le dit Alain Prochian, mais de manière extrêmement différente, la question n'a plus un sens unique. Mais elle peut recouvrir des tas de sens différents, auquel cas on aura des réponses évidemment différentes attachées à chaque sens. Donc moi je vais essayer de dire de quelle manière je prends cette question, sachant que je ne critique pas du tout la manière dont Alain Prochian décrit ce qu'il appelle penser, c'est une définition qui est parfaitement possible, ça n'est pas la mienne. Non pas que je puisse montrer que la sienne n'est pas bonne, mais tout simplement parce que je pense que la question que nous nous posons ce soir n'est intéressante que si on a une définition de la pensée qui est différente de celle qu'il vient de proposer. Parce que sinon, d'une certaine manière, on oublie le débat, et si on dit que les plantes peuvent penser, que les bactéries peuvent penser, pourquoi pas, avec une définition telle qu'on vient de l'avoir, qui est le fait de dire que la pensée, ça n'est rien d'autre qu'un processus adaptatif, on pourra effectivement dire, même dans certains cas, que des programmes d'ordinateur peuvent penser. Mais la question initiale que posait Turing et la question majeure de philosophie de l'esprit n'est pas celle-là. Dite de manière un peu informelle, la vraie question qu'on se pose tous quand on s'interroge, c'est, nous, on sait ce que ça veut dire d'être conscient, parce qu'on le ressent en tant qu'homme. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas tellement envie de se comparer à une plante verte. On a l'impression, vraisemblablement à raison, à moins qu'on nous prouve que c'est faux, mais jusqu'à preuve de contraire, on a quand même l'impression qu'en tant qu'homme, on est différent d'une plante verte, et ce qui fait notre différence, c'est essentiellement le fait que nous ressentons quelque chose, toute la difficulté du problème, parce que cette sensation, comme le disent les philosophes, est en première personne, alors que là, c'est-à-dire c'est nous qui ressentons et on a du mal à le partager, alors que la sensation, enfin les objets qu'étudie la science habituellement sont, comme on dit, en troisième personne, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'objectivité, alors que la conscience est une notion subjective. Ce qui fait toute la difficulté du problème, et c'est essentiellement la raison pour laquelle ce sujet-là a été mis de côté pendant longtemps par la science et les philosophes de l'esprit aussi. Maintenant, si on se pose la question, et je vais la préciser, mais de manière simple, comme on peut se la poser, simplement en se disant, moi je sais très bien que je pense, est-ce qu'un ordinateur peut penser ou être conscient comme moi ? Là, on a une difficulté complémentaire, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par là, qu'est-ce qu'un ordinateur doit pouvoir faire pour en arriver à la même sensation, et encore une fois, je mets ça entre guillemets, que j'éprouve. Et je crois que la question de Turing, elle est là. C'est, est-on capable d'écrire des programmes qui vont résulter en ce que, avec un certain niveau de complexité, une fois qu'il sera atteint, on en est très très loin. Je reviendrai tout à l'heure sur le concours Leibniz avec des programmes qui sont capables de faire illusion pendant quelques minutes. Est-ce qu'un programme va être capable, à un moment donné, de ressentir quelque chose ? La vraie question, elle est là. Alors, cette question, elle a été débattue depuis très longtemps. Il y a énormément de travaux qui ont été faits de philosophes, de physiciens, de mathématiciens, de biologistes. On n'a pas de réponse définitive, mais on peut donner quelques éclairages quand même. La première chose, c'est qu'il faut déjà définir ce que c'est qu'un ordinateur. Ça, c'est le travail fondamental de Turing. Parce que quand on parle d'un ordinateur, on sait très bien, on a tous des ordinateurs. Mais je pense que savoir réellement ce qu'est un ordinateur, en dehors du fait qu'on l'utilise tous les jours, tout le monde ne le sait pas. Et Turing a été le premier à clarifier cette notion-là en termes de fonctions calculables, à travers cette notion théorique de machine de Turing, qu'il a inventée pour répondre à la question de définir ce qu'était une fonction calculable, entre autres problèmes mathématiques qui étaient liés à cela. Et il s'agit tout simplement d'être capable d'exécuter une suite d'instructions très limitées qui vont s'enchaîner et qui permettent de définir des calculs à la file. Un ordinateur, ça ne fait que ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont les instructions autorisées dans une machine de Turing ou de comment on définit mathématiquement une fonction calculable, c'est secondaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un ordinateur ne fait rien d'autre qu'enchaîner une suite d'instructions qui sont dans le choix qu'il a en nombre fini et qu'il exécute à la file les unes des autres. La question qui se pose est donc de savoir si une telle succession d'instructions prédéterminées est capable à un moment donné, premièrement, de donner l'illusion d'une conscience, c'est le jeu de l'imitation, et deuxièmement, dans l'hypothèse où on a cette illusion, de savoir si réellement l'ordinateur qui donne cette illusion est conscient, c'est-à-dire il a la même sensation que vous ou pas. Et là, les réponses diffèrent. Il y a des gens qui refusent d'accepter qu'il soit possible de simuler la conscience par un programme d'ordinateur, en disant que la conscience est plus que ça, ce n'est pas calculable. Il y a des physiciens comme Roger Penrose qui prétendent ce genre de choses. Il y en a d'autres qui l'acceptent, mais qui disent que pour autant une telle simulation ne reproduira pas la même sensation privée dans l'ordinateur que celle que vous pouvez éprouver. Et c'est ces questions-là dont il est question. Et je pense qu'il faut se focaliser sur ce problème précis qui est déjà très complexe, parce que si on est dans la conscience ou la pensée à, on va dire, tout le règne vivant, on va avoir des réponses qui vont être graduelles, et je suis d'accord qu'il peut y avoir énormément de degrés, mais s'il faut répondre à la question de savoir si une machine peut éventuellement avoir un programme adaptatif, au sens où le disait Alain Prochance, je pense que la réponse est oui, trivialement.
Oui, je ne comprends vraiment pas où est le problème. D'abord, je ne pense pas sous la contrainte, c'est-à-dire que j'ai le droit de poser mes propres définitions si ça ne dérange personne ici. Et je suis matérialiste, donc je pense que je descends d'une bactérie. C'est-à-dire, je pense que nous descendons tous de bactéries. Donc il y a l'histoire de l'évolution et la conscience, qui est effectivement quelque chose qui est propre aux primates et au plus haut degré qui est propre à Sapiens, à un moment donné, est venu d'un processus qui est un processus qui a dû travailler d'une certaine façon dans ceux qui nous ont précédés. Donc, ce que je veux dire, si c'est un rapport adaptatif, que je pose comme position biologique, mais justement pour ne pas empiéter sur les prérogatives de mes collègues qui sont physiciens, informaticiens, philosophes, sociologues, ce que vous voudrez, qui ont bien le droit d'avoir leur propre définition dans leur champ théorique qui est le leur. Donc, moi je suis dans un autre champ théorique qui est le mien. Et à l'intérieur de ce champ théorique, je pose des définitions qui, à mon avis, sont relativement justes. C'est-à-dire que, effectivement, le problème d'un être vivant, c'est de s'adapter à son milieu, et que le milieu change, et que le vivant change aussi, de telle sorte qu'il va laisser un certain nombre de descendants, et que l'espèce va pouvoir continuer. Il se trouve, et ça, il semble que ça a échappé à votre attention, que je dis qu'avec le système nerveux, les rapports avec le milieu se sont enrichis de façon considérable, et évidemment, avec Sapiens encore plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison possible entre une plante et un Sapiens. C'est-à-dire qu'un Sapiens, tout d'un coup, la conscience, effectivement, est apparue essentiellement chez les primates, et probablement au plus haut degré chez Sapiens, avec aussi l'invention du langage, quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que ça multipliait de façon infinie, quasiment, les capacités d'interaction et de, avec le milieu, y compris d'ailleurs avec, avec soi-même. Donc on pourrait donner quelles sont les données anatomiques qui permettent de définir une conscience. Donc je ne dis pas que nous sommes des bactéries. J'ai même écrit beaucoup de livres pour me révolter contre les gens qui disent que la frontière s'est amenuisée entre Sapiens et le singe. Je pense que nous sommes et nous ne sommes pas des animaux, justement à cause de cette question d'évolution extrêmement rapide du cerveau qui s'est produite dans les 5 derniers millions d'années. Mais il reste qu'il faut voir que c'est quand même dans quelque chose qui a à voir avec le rapport adaptatif que nous avons avec le milieu.
Pardonnez-moi, il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Quand vous dites que la pensée, c'est le rapport adaptatif entre l'individu vivant et son milieu, c'est bien ça?
Oui, et même les espèces.
Et leur même les espèces, les groupes d'espèces peut-être, même les espèces. Pourquoi la pensée? Parce que pourquoi ne dites-vous pas la pensée est l'un des rapports adaptatifs? Non, pourquoi est-ce que vous dites que c'est le rapport adaptatif? Parce qu'on pourrait parler du compensement.
Je le définis comme ça, c'est-à-dire qu'on on a à peu près une demi-heure chacun, donc je n'ai pas commencé à faire un cours de biologie. Mais ce que je voudrais surtout éviter, c'est une polémique qui viendrait de l'idée de rabattre une discipline sur une autre. Donc, et je pense que Turing, justement, est quelqu'un d'exceptionnel de ce point de vue, c'est-à-dire que après « Les machines pensent-elles » publié dans la revue Mind en 1950, qui était un grand article que j'incite tout le monde à lire, et ce test de Turing fait que si on n'est pas capable de savoir que la personne qui est de l'autre côté du mur est une machine, alors c'est que les machines pensent. C'est une définition extrêmement pragmatique, tout à fait remarquable, mais il faut toujours lire les dernières lignes dans un livre, pas uniquement s'arrêter au bout. À la fin, il y a toutes les objections que Turing lève contre lui-même. Par exemple, d'où vient le goût des fraises à la crème? Est-ce qu'une machine peut avoir le même sentiment de plaisir à déguster des fraises à la crème que vous ou moi? Alors, ça pose toutes sortes de questions qui sont des questions de l'ordre de la biologique, de l'ordre de la conscience, effectivement, de l'ordre du plaisir, de l'ordre des sens. Et il y a cette pirouette turingienne qui est tout à fait extraordinaire, qui dit finalement, il y a une machine qui pense. Il y a une machine qui évolue. Parce que c'est le terme qu'il utilise et qui apprend, et c'est le terme qu'il évolue, eh bien, c'est le cerveau d'un jeune enfant. Et il se pose la question de savoir comment le cerveau d'un jeune enfant, comme le cahier de l'écolier qu'on achète chez l'épicier qui est vide, tout d'un coup se remplit par essai et erreur dans un processus qu'il définit lui-même comme un processus darwinien. Très clairement, c'est dans le texte, d'accord? Et à partir de ce moment, il se pose des questions en biologiste, et ce n'est pas du tout étonnant que 2 ans après, et 2 ans malheureusement avant de se suicider, de la façon spectaculaire que l'on sait, eh bien, il fonde, je suis titulaire de la chaire des processus morphogénétiques, il fonde la première grande théorie biologique des morphogènes, qui est une théorie du vivant, qui à ce moment-là n'est plus une théorie de la machine, qui devient une théorie du vivant. Et c'est moi ce qui m'a fasciné chez Turing, c'est cette capacité de voir où se posait la frontière entre deux disciplines, de décider que finalement, il y avait une machine qui était capable de faire ça, elle est là, et qu'il allait commencer à essayer de voir comment cette chose pouvait se construire au cours du développement d'un enfant. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de conflit. Il y a simplement que les sciences, ce n'est pas uniquement un objet. Les sciences, c'est l'objet et la théorie qui l'entoure. Et les deux coévoluent. Les sciences ne sont jamais parfaites, sinon ce serait des religions. Donc, elles évoluent. Et peut-être qu'un jour, bien entendu, les disciplines fusionneront. Moi, je n'ai rien contre. On voit déjà aujourd'hui, je suis en fait pour l'homme, pour le vivant et pour la machine. C'est-à-dire que je suis pour le cyborg, honnêtement. Donc, je pense dire que nous sommes tous des cyborgs. Donc, mais ça va permettre. Il va falloir pour ça comprendre ce que c'est qu'une théorie de la machine, ou pas ce que c'est qu'une machine, mais ce que c'est qu'une théorie de la machine, et non pas ce que c'est que le vivant, mais ce que c'est qu'une théorie du vivant. Et à partir de là, on pourra peut-être commencer à réfléchir de façon plus raisonnable et plus posée sur des questions qui sont pas des questions idéologiques, mais qu'on pourra ressasser année après année, après année, après année sur les mêmes thèmes si on n'accepte pas de déplacer un tout petit peu la façon dont les questions sont sempiternellement posées de la même façon.
Alors je repose deux questions de manière sempiternelle pour être bien certain que vous ne vous les posez plus. La question de savoir si une machine créée par l'homme peut, je ne dis pas générée par l'homme, mais créée par l'homme, fabriquée par l'homme, je ne parle pas de la procréation naturelle et biologique, peut être capable d'avoir une conscience au sens où nous l'entendons. Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est les progrès de votre discipline, enfin de la neurobiologie pour être plus précis, nous permettront un jour de comprendre ce qui s'appelle comprendre comment des neurones naît ce que nous appelons la conscience.
Mais je ne sais pas. Un des gros problèmes devant lesquels nous sommes et qui probablement explique les incompréhensions, c'est qu'on sait peut-être comment une machine pense. Je crois que les gens qui construisent des machines ont au moins des idées sur ce qu'ils mettent dans la machine, même si ça peut leur échapper par moment, on peut espérer. Ce serait même très amusant de voir une machine s'autonomiser. Moi, je n'ai rien contre, je ne suis pas du tout sectaire de ce point de vue. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait pas comment le cerveau pense. Ça, c'est un truc qui est très clair. C'est-à-dire que nous avons des connaissances sur le cerveau, bien sûr, mais on ne sait pas comment ça marche là-dedans. Donc, on n'est pas du tout sûr que ce soit une logique du genre d'une logique de la machine. La question, je peux pas vous répondre. J'aimerais bien savoir comment fonctionne le cerveau, mais je ne le sais pas. Et je crois que personne ne peut prétendre le savoir. Alors, on peut faire des modèles qui sont des modèles dérivés des machines. Et c'est très intéressant de faire des modèles de cerveau. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que le cerveau pense. Et ça reste encore un grand mystère. Et la conscience reste quand même encore un grand mystère. Alors, je suis optimiste, mais de mon vivant, je ne suis pas sûr que je le verrai, oui.
Ça me fait plaisir à entendre, parce que c'est quand même une sempiternelle question.
C'est une très bonne question, mais venez travailler dans mon laboratoire, on travaillera ensemble, mais il faut bosser sur cette histoire. Il ne s'agit pas de poser des questions, il faut essayer de comprendre d'où elles viennent. Et la perspective évolutive est une très bonne façon de faire, parce que on peut voir, essayer de comprendre à quel moment c'est apparu. Par exemple, si vous essayez de comprendre la différence entre un chimpanzé et un sapiens, alors vous avez toutes les approches de génétique, vous avez toutes les approches de comparaison des génomes, vous avez toutes les approches de comparaison des cerveaux, et pour au moins approcher le problème de façon légèrement expérimentale. Mais ce ne sont pas des questions qui peuvent se résoudre en une seconde, bien entendu.
Hervé Svirne, qu'est-ce que vous inspire cette...
Je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à cette question-là. On ne peut pas la traiter telle qu'elle, dans la mesure où il y a tout un ensemble, tout un faisceau de problèmes à la fois mathématiques, physiques et philosophiques qui sont liés à cette question.
Peut-être que pour être concret, vous pourriez, puisque vous l'avez annoncé... excusez-moi, mais puisque vous l'avez annoncé, vous pourriez revenir un peu sur le test de Turing tel qu'il se pratique aujourd'hui, parce que c'est une façon très concrète de voir un certain nombre de choses.
Ça, bon, je peux effectivement parler de ça. Je reviendrai quand même sur ce que je voulais dire, parce que je voudrais répondre à la prochaine.
Je vous en prie.
On est là pour ça. C'est sûr, on a ensemble.
J'ai compris que vous étiez pressé.
Mais on peut se voir plus tard.
Absolument. Le test de Turing. Bon, le test de Turing s'appelle le test de l'imitation. D'abord parce que Turing a pensé, d'ailleurs il l'a écrit dans son texte, à un test identique où on va mettre dans une salle un homme et une femme séparés par une cloison et qui vont converser avec quelqu'un qui ne les voit pas dans la salle d'à côté. Et par leur dialogue, celui qui est dans la salle isolée doit décider qui est l'homme et qui est la femme. Et c'est la même idée, mais cette fois-ci en remplaçant l'homme et la femme par un homme et un ordinateur. Donc ça s'appelle le jeu de l'imitation pour cette raison. Et aujourd'hui, donc, il y a ce fameux concours dont parlait Olivier, qui est le concours Lebner, qui se passe tous les ans depuis, je crois, 1991, si je ne m'abuse, et qui se réalise à peu près de la manière dont Turing l'avait souhaité. L'an dernier, je crois... il y a eu un programme, comme vous le disiez, qui a réussi à berner, en quelque sorte, pendant 5 minutes, certains des juges, pas tous. Ce programme, si je ne m'abuse, s'appelle Cleverbot. Et une version simplifiée, dit-on, sur Internet de Cleverbot est disponible. Vous pouvez tous essayer. le site internet, je ne sais plus, si vous tapez Cleverbot sur Google, vous le trouverez. Moi, je me suis amusé à le faire. Et alors, ils prennent les précautions d'usage en disant que la version qui a gagné le concours Lebner est une version plus sophistiquée que celle qu'ils mettent en ligne. Mais j'ai conversé avec Cleverbot. Pas longtemps, ça m'a vite fatigué. Il y a une animation avec un visage féminin qui fait semblant de parler. Et vous posez des questions en langage naturel, bon, en anglais, il faut parler anglais, mais enfin, bon, ça pose pas trop de problèmes. Et on lui pose des questions. Et très vite, mais pas cinq minutes, on se rend compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les questions, les réponses que l'ordinateur apporte sont stéréotypées. Souvent, elles tombent à côté de la question qu'on a posée. Et je me suis amusé à faire un test. Parce que dans ce domaine, il y a quelqu'un qui s'appelle Douglas Hofstadter, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire un de ceux qui est informaticien, un de ceux qui croit vraiment qu'un jour, on arrivera à faire des programmes conscients. Et Douglas Hofstadter, d'ailleurs, avait écrit dans un de ses articles qui était paru dans Scientific American 10 ans avant, qu'il serait bien de créer un vrai concours. Le concours Lebner, en fait, s'est produit 10 ans plus tard, mais Hofstadter l'avait proposé 10 ans plus tôt dans Scientific American. Et il disait, si moi je devais participer à un concours comme ça en tant que juge, quelles questions je poserais à l'ordinateur? Je lui dirais, je lui demanderais, si vous étiez un juge, qu'est-ce que vous poseriez comme question à l'ordinateur pour essayer de le confondre? Bon. Et ça, c'est typique de Douglas Hofstadter, qui adore les phrases auto-référentielles, etc. Et tout ce qui est réflexif et auto-référentiel joue un grand rôle aussi dans l'analyse qu'on peut faire des problèmes de conscience, etc. Et donc, je me suis amusé à le faire. Et ça a été une catastrophe totale. C'est-à-dire que d'abord, le robot m'a dit « Pourquoi me posez-vous une question ?» Je lui ai dit « Parce qu'on est là pour parler. » Alors, il me dit « Répondez vous-même. » Je lui ai dit « Non, c'est moi qui pose la question, j'aimerais qu'on me réponde. » Et on me dit « Mais à quelle question ?» Je lui ai dit « Mais je viens de la donner. » Et on m'a répondu « Mais dans quel pays êtes-vous ?» Bon, voilà. Donc, typiquement, aujourd'hui, ce type de programme ne fonctionne pas. Et honnêtement,
pourtant, il y a une époque où beaucoup de gens ont cru que ça fonctionnait, au point que une partie de la communauté des psys américains se sont servis, enfin, ont cru pouvoir promouvoir ce type de programme pour que des ordinateurs remplacent les psys pour soigner des patients.
Oui, le problème, c'est que c'était limité à un domaine, c'était les programmes ELISA qui avaient été faits. Qui étaient des programmes dont le champ d'intervention était limité à un entretien psychanalytique. Je ne veux pas m'attirer les foudres des psychanalystes.
Si, si.
Alors, je vais le faire. Je pense qu'il est assez facile, en racontant n'importe quoi, de passer pour un psychanalyste et que ça passait bien. Mais,
il n'y a pas de psychanalyse,
mais on ne va pas faire un débat sur la psychanalyse. Toujours est-il que je pense que c'était parce que c'était limité à ce champ. Alors, ceci dit, attention, il y a des programmes qui, dans un champ extrêmement restreint, arrivent à faire illusion. C'est comme les fameux systèmes experts dont on parlait dans les grandes années d'intelligence artificielle, dans les années 60-70, dont on attendait beaucoup et dont on est complètement revenu. Certains systèmes experts fonctionnent bien du moment qu'on est dans un champ extrêmement restreint et qu'on va leur fournir des informations en très grand nombre dans lesquels ils vont puiser, si le domaine est limité. Mais là, on est sur un autre plan. On est sur le plan de limitation d'un véritable être humain. Et notre mémoire, notre manière de voir les choses est très largement au-delà de tout ce qui va pouvoir être rentré dans un ordinateur, même en lui rentrant des phrases automatiques ou des réponses automatiques sur des mots-clés. Il y a une tentative qui est faite comme ça, avec un programme qui a engrangé, je ne sais plus, 30 ou 40 000 réponses types qui répondent à des mots-clés. C'est beaucoup, 30 ou 40 000, on pourrait se dire, c'est déjà pas mal. Mais ça ne suffit pas pour éviter les pièges dans lesquels on peut tomber pour être véritablement, pour remplacer un homme. Donc je suis sceptique sur la possibilité d'arriver dans un délai bref, c'est-à-dire de quelques dizaines d'années, je vais être prudent là-dessus, mais à faire le test de Turing en face de plusieurs interlocuteurs et durant plusieurs heures.
Est-ce qu'on pourrait même poser la question de savoir si c'est possible?
Alors, c'est une question. Alors, c'est la question de fond, et ce qu'a dit tout à l'heure Alain Prochante, je suis content, mais j'ai pas pu rebondir dessus.
Vas-y.
Parce que il a posé la question qui, à mon avis, est la vraie difficulté. Je suis bien sûr aussi matérialiste et athée. Donc on n'est pas ici du tout, et on est complètement d'accord là-dessus, dans l'idée d'être dualiste, c'est-à-dire de faire comme l'avait fait Descartes à l'époque, de proposer qu'il y ait des substances matérielles et des substances spirituelles qui permettent de mettre en quelque sorte la poussière sous le tapis en disant ben, on ne comprend pas ce que c'est, il y a une substance spirituelle avec des tas de propriétés mystérieuses qui explique la conscience. Bon, il est hors de question de ça, et plus aucun scientifique sérieux aujourd'hui ne pense ça. Donc tous les scientifiques, quelle que soit leur discipline, tous les scientifiques sérieux sont matérialistes. Et être matérialiste, ça veut dire penser qu'il n'existe qu'une seule sorte de chose dans l'univers. Ce sont en gros les particules, les protons, les neutrons, les électrons dont sont faits nos atomes, et puis d'autres particules élémentaires qui interviennent moins directement chez nous, mais qui font partie de l'univers.
Si je peux me permettre, il y a quand même une proportion non négligeable, c'est pas notre sujet, de scientifiques qui sont croyants, qui sont religieux. Ou bien vous voulez dire autre chose?
Oui, je ne vais pas aborder le sujet de la religion, je suis athée, mais c'est encore un autre sujet qui nous entraînerait peut-être un peu loin. Ce que je veux dire, c'est que même les scientifiques qui sont religieux, je parle des scientifiques qui sont religieux, pas des religieux, je parle des scientifiques qui sont religieux, admettent qu'il existe dans le monde, ceux qui sont matérialistes, et c'est quand même le cas pour la plupart, uniquement une sorte de substance qui est la matière faite des particules élémentaires que nous décrit la physique des particules. Bon, moi je suis physicien des particules au départ, et je me sens à l'aise dans cette description. La question qu'on se pose, elle est à deux niveaux. La première, c'est, et ça c'est une question d'épistémologie, et je reviens sur ce que disait Alain Prochian tout à l'heure, et je suis d'accord partiellement avec ce qu'il disait, quand il disait « chaque domaine scientifique a son problème, sa problématique ». Il a raison. Le vocabulaire, les termes théoriques et la problématique qui se pose en biologie n'est pas réductible à la physico-chimie, à la physique des particules. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, les différentes sciences ont chacune leur point de vue, leur manière de voir leurs problèmes et leur manière de décrire les problèmes qu'elles cherchent à attaquer avec un vocabulaire particulier. Maintenant, le problème que ça pose, c'est que en théorie, je dis bien en théorie, puisque rien d'autre n'existe que des particules, tout, y compris nous-mêmes, devrait être réductible à la physique, qu'on appelle le réductionnisme absolu. En pratique, on ne sait pas le faire, et il y a de bonnes raisons de penser qu'on n'y arrivera jamais. Mais ces raisons de penser qu'on n'y arrivera jamais sont très subtiles, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est une question extrêmement délicate de philosophie des sciences qui a fait couler des tonnes de discussions, et il y a des milliers de pages écrites là-dessus. Mais il y a, et je le crois, de bonnes raisons de penser que bien que tout se ramène en définitive à la physique des particules, on n'arrivera jamais à réduire la psychologie, la biologie, la chimie à la physique des particules. Bon, pour des raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer. Donc, je suis à la fois d'accord avec ce qu'il a dit sur le fond, mais en même temps, je récuse le fait qu'il puisse y avoir autre chose que à la fin des fins de la physique. Mais on ne sait pas le faire.
On est d'accord complètement. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais parce que j'ai dit que les théories étaient évolutives. Aujourd'hui, on est à un stade où les théories qui permettent de penser le vivant sont des théories du vivant. Et encore, on n'est pas au bout de nos peines pour la construire, cette théorie du vivant. Ça ne veut pas dire que dans 10, 20, 30, 100 ans, 1000 ans, les champs théoriques n'auront pas suffisamment convergé pour qu'il n'y en ait plus qu'un. J'en sais rien, moi. Je serai pas là, mais je suis pas du tout fixé ou figé sur une position. La physique, c'est pas la biologie. On fait de la physique de la matière molle. La matière molle, c'est ça. Dans tous les laboratoires, c'est une façon d'approcher le vivant qui est extrêmement intéressante. Ça donne plein d'indications sur le vivant. Pour penser la reproduction, l'évolution et la génétique, pour l'instant, on a besoin de théories biologiques. Mais peut-être qu'un jour, on pourra les penser dans d'autres termes. Ça me dérange pas. Faut pas être sectaire, du tout. Donc, on est parfaitement d'accord sur ça. Parce qu'on est des scientifiques, c'est pour ça qu'on est d'accord. Si je peux me permettre, il y a un truc assez intéressant, c'est pas le test de Turing, c'est le test de Darwin. D'accord, on va faire le test de Darwin. C'est une manie par la pensée, les physiciens aiment bien faire des manies par la pensée. Supposez que vous êtes capable d'avoir toutes les données que Darwin a pu collecter depuis qu'il est monté sur le Beagle, qu'il est revenu 4 ans plus tard, et que 30 ans après, il a écrit... l'origine des espèces, que vous ayez toutes ces données et que vous les mettiez dans un ordinateur, d'accord ? Que vous ayez un ordinateur qui soit capable de traiter ça, et vous le moulinez, et est-ce qu'il va vous sortir la théorie de l'évolution ou est-ce que le personnage Darwin, en tant que sujet pensant, avec cette espèce de masse gélatineuse qui a la consistance du porridge tiède, comme le dit votre ami Turing, apporte quelque chose de particulier au fait qu'il a pu proposer une théorie, la théorie de l'évolution. Ça, je pense que c'est une jolie manie par la pensée qui, de toute façon, touche un tout petit peu le problème à l'envers du problème de Turing, c'est-à-dire j'ai toutes les informations, je les mets dans une machine qui, même si elle n'existe pas aujourd'hui, qui sera capable de les traiter, est-ce que je sors de la théorie de l'évolution ou non ?
Il y a un mot un mot piège aussi qui est, qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui a forcément été utilisé par l'un comme par l'autre, c'est le mot sens. Est-ce que je ne sais pas très bien ce que c'est que le sens, mais est-ce que cette question du sens ne vous paraît pas centrale dans la réflexion sur ces problématiques ?
C'est quoi le sens ? À part pour Beckett, parce que je suis un chercheur post-beckettien, donc je suis convaincu que rien n'a de sens, mais pourriez définir ?
Oui, la question du sens, par exemple, définir, je ne sais pas si je saurais, peut-être que je ne me permettrai pas, mais je vais donner un exemple. Google Translate, c'est-à-dire le système de traduction automatique qui existe aujourd'hui, on nous annonce depuis longtemps que nous allons disposer de traducteurs automatiques efficaces. En fait, on se rend compte que le progrès patine dans la choucroute et on arrive à peu près à traduire, grosso modo, un certain nombre de textes qui sont tellement administratifs ou techniques que la machine n'a pas beaucoup besoin de faire appel à ce que nous appelons vulgairement le sens pour traduire, mais dès que le texte est un tout petit peu humain, c'est impossible en fait. Enfin, en tout cas, ça ne progresse plus, ça ne progresse pas. Et on se dit que la machine, l'ordinateur, bute sur la question du sens.
Vous voulez répondre ? Allez-y.
Oui, parce que...
Je dirai un petit mot après.
D'accord.
Sur le sens.
Sur le sens, bon, il y a une distinction en logique. En logique, je parle de la partie des mathématiques qu'on appelle la logique. Entre ce qu'on appelle la syntaxe et la sémantique. Bon, la syntaxe, grosso modo, c'est tout ce qui concerne la forme des choses. La manipulation formelle des objets. Par exemple, quand vous faites une phrase en français, la syntaxe vous dit de mettre un sujet, un verbe, un complément. C'est une syntaxe. Et si vous ne mettez pas un sujet, un verbe, un complément, mais si vous mettez un sujet, deux verbes, ce n'est pas correct syntaxiquement parlant. Maintenant, quand vous avez construit une phrase en mettant un sujet, un verbe, un complément, vous savez qu'elle est syntaxiquement correcte, ça ne veut pas dire qu'elle a un sens. C'est l'aspect sémantique. Le sens, si j'écris « je suis content », ça a un sens. Alors que je peux construire une phrase qui est syntaxiquement correcte mais qui n'a pas de sens, comme par exemple « le fauteuil mange demain ». Ça n'a strictement aucun sens. Et syntaxiquement, ça reste correct. Et cette distinction-là a été utilisée par un des adversaires farouches du fait que les machines peuvent penser, qui est un philosophe anglo-saxon qui s'appelle John Searle, dans un argument qui a lui aussi fait beaucoup d'encre et qu'il a appelé la chambre chinoise. Alors la chambre chinoise, c'est l'expérience de pensée suivante. Imaginez que vous ne parliez pas un mot de chinois, mais qu'on vous mette dans une chambre et qu'on vous transmette des questions posées par des Chinois et que vous deviez répondre à ces questions, vous les transmettez sur des petits bouts de papier. Alors évidemment, comme vous ne parlez pas le chinois, vous recevez ces morceaux de papier, vous n'y voyez que des hiéroglyphes auxquels vous ne comprenez rien, vous ne pouvez rien faire. Imaginez maintenant, et c'est là que Searle fait la comparaison avec l'ordinateur, que vous ayez un programme qui vous dise que lorsque vous recevez telle série de symboles, eh bien, vous devez répondre par telle autre série de symboles, etc., etc. Donc, pour chaque série de symboles que vous recevez, auxquels vous ne comprenez rien, eh bien, vous avez une suite d'instructions qui consiste à prendre d'autres bouts de papier, à les mettre ensemble et à les sortir. Et la sortie que vous donnez de ces bouts de papier, c'est la réponse. Et imaginez que le programme soit fait de telle manière que, eh bien, ce que vous répondez en comprenant pas du tout ce que c'est une bonne réponse à la question qui a été posée en chinois. Et c'est donc une bonne réponse en chinois à une question posée en chinois. Et Searle dit, un ordinateur, ça fonctionne comme ça. On lui donne des instructions auxquelles il ne comprend évidemment rien. Il est capable mécaniquement de les dérouler, comme vous déroulez vos bouts de papier en les mettant dans le bon ordre. Et en fait, eh bien, vous allez avoir dans cette chambre chinoise quelqu'un qui va être capable de répondre en chinois à des questions en chinois, en ne comprenant rien au chinois. Et donc, il prend l'analogie en disant tout simplement, l'ordinateur, si on le programme, même si on le programme de telle sorte que de l'extérieur, il apparaisse intelligent, eh bien, il sera comme vous dans cette chambre. Pour un chinois, vous lui répondez en chinois, mais en fait, vous ne comprenez pas un mot de chinois. Et donc, c'est cette question du sens. Et Searle insiste énormément, un peu trop d'ailleurs, avec d'autres arguments qui, eux, sont beaucoup moins valables, mais il insiste énormément sur le fait que sa démonstration à lui que les machines ne peuvent pas penser, c'est que les machines n'ont qu'un fonctionnement syntaxique et que le sens, donc la sémantique, ne peut pas se réduire à la syntaxe. Donc on est en plein dans la question que vous posiez. C'est l'argument majeur de Searle pour contrer le fait que les machines peuvent penser. Alors mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, bien sûr.
Mais si une plante peut penser, le sens trouve son origine très loin.
Attendez une seconde, s'il vous plaît, monsieur. Je vous ai demandé de prendre le micro.
Vous vous présentez, s'il vous plaît.
Je m'appelle Vincent Lostanlen, je suis étudiant en école d'ingénieur. Il me semble que vous êtes né dans une chambre française. Enfin, je veux dire, les gens autour de vous vous ont envoyé des messages en français auxquels vous ne compreniez rien, des questions, et vous aviez appris à formuler des réponses par un processus que vous osez appeler la pensée. Alors, si vous dites ou si Searle estime que l'ordinateur fait pareil, alors pourquoi est-ce que vous faites une distinction entre ça ?
C'est pas moi qui fais la distinction. Là, je ne fais qu'expliciter l'argument de Searle. Je n'ai pas dit que je le partageais. Hein. Il y a énormément de réponses. Mais une des réponses possibles, en la développant un peu, c'est un peu l'idée que vous évoquez. C'est-à-dire, si, d'une certaine manière, vous êtes capable d'intérioriser la totalité des instructions en question, de la mettre dans votre cerveau, et de répondre de cette manière-là, vous comprendrez le chinois. C'est la réponse qui a été faite par un certain nombre de gens, comme Dennett et Hofstadter, qui ont répondu à Searle à ce sujet, en disant « Searle sous-estime tout un ensemble de choses. D'abord, il sous-estime la complexité du programme en question, qui ne se réduirait pas à une liste d'instructions, ça serait d'un niveau de complexité bien supérieur. Mais si on admettait que ça soit possible, alors, oui, la totalité de votre cerveau ayant intégré ça, comprendre les Chinois comme on a appris à parler français. Donc ça va dans le sens que vous dites.
Alors, oui, comme on a appris à parler le français pendant une certaine période de sa vie. C'est-à-dire que là, on retombe sur la question posée par Turing du cahier acheté chez l'épicier. C'est-à-dire qu'il y a des périodes critiques pendant lesquelles on apprend, qui sont des périodes de développement du cerveau. Donc on est obligé de lier ça à la question du développement, à la question d'une certaine forme de plasticité cérébrale qui se maintient pendant un certain temps, mais qui se perd beaucoup après. Donc la question du langage est une question qui est très compliquée, parce que le langage, ce n'est pas la communication. Donc que ce soit le français ou le chinois ou autre chose... J'ai dit que les plantes pensent, et ça a l'air de chagriner Olivier, mais les plantes ne parlent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même forme de la même complexité dans le pensée que nous, bien entendu.
Attendez une toute petite seconde là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une différence à faire quand même entre les êtres vivants qui n'ont pas de cerveau et ceux qui ont un cerveau ?
Oui, bien sûr, il y a une différence même entre certains qui ont un cerveau bien fait et ceux qui l'ont moins bien, mais... Il y a plein de différences à faire.
Je trouverais déjà plus satisfaisant de d'entendre que la libellule pense.
Mais parce que vous êtes bloqué, vous êtes bloqué sur une définition de la pensée qui est une définition que vous faites porter sur Sapiens. Moi, je vous dis, Sapiens a une forme de pensée très spécifique qui est spécifique de Sapiens, mais qui est quand même un rapport adaptatif au milieu. Parce que ça lui vient, comme le disait ce jeune homme très bien, de ce qu'il a entendu, de comment il a grandi, comment il s'est développé, dans quel milieu, avec quel langage. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans son cerveau parce qu'il a un cerveau qui est très particulier, qui est très différent de celui d'un singe, qui est très différent, évidemment, de ceux qui n'ont pas de cerveau. Ça va de soi. Donc, notre cerveau est un instrument d'interaction avec le monde qui est incroyable, mais qui est aussi un instrument qui est sécrété par le monde. ne faut pas oublier que, et c'est là que la chambre de sœurs, la chambre chinoise, est importante, parce que notre cerveau est sécrété par l'expérience sensorielle, affective, linguistique que nous avons du monde. Bien entendu, c'est-à-dire que si je prends deux jumeaux qui auraient le même génome, je les mets dans deux milieux différents, eh bien à la fin de leur développement, et même très rapidement, ils n'auront pas le même cerveau, ce ne sont pas les mêmes personnes. Sinon, effectivement, nous serions totalement des machines. Donc c'est là que le langage devient quelque chose d'extrêmement difficile à penser, parce que je n'ai pas de réponse à ces questions. Mais je pense qu'on ne doit pas les simplifier outre mesure, il faut accepter les zones qui nous restent tout à fait étranges et incompréhensibles. Mais en l'occurrence, je crois qu'il faut faire une distinction entre le langage qui est un instrument de communication, passe-moi le sel, je filerai le beurre, et le langage qui est justement lié à ce qu'est une conscience de soi. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tous, autant que nous sommes, nous perdons notre poids en cellules par an. D'accord ? Nous les regagnons. Hein ? Notre génome est d'une flexibilité, d'une instabilité extrême. Il n'y a pas un génome fixe, c'est-à-dire qu'on change de génome régulièrement, y compris dans le système nerveux. On change de cellule dans le système nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, nous ne sommes jamais la même personne. Hein ? C'est-à-dire que si je prends cette jeune femme qui, je sais pas, a 25 ans, 26 ans, et que je le fais une manie pour la penser encore, revenir 10 ans en arrière et puis 10 ans en avant, elle n'est pas là devant moi, elle n'a pas eu les mêmes expériences, elle n'a pas les mêmes formes de pensée, elle n'a peut-être pas les mêmes façons de parler, etc. Donc nous sommes des individus historiques qui se construisent. La seule façon que nous avons de penser que nous sommes nous-mêmes, c'est à part le passeport où c'est écrit à l'approchant, ce qui me rassure jusqu'au jour où je vais, c'est que je peux me raconter des histoires. C'est-à-dire que je peux me raconter mon histoire, même si elle est fantasmée, même si elle est fausse. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de réentrer en permanence des informations sur moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très fortement, la conscience, liée au langage, bien entendu. Ce n'est pas la même forme de langage que de dire « passe-moi le chocolat hein ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est une construction de leur langage et ce que re-rentre dans, j'allais dire, la machine, c'est une forme de construction en permanence de la conscience de soi. Les singes ne peuvent pas le faire, les plantes ne peuvent pas le faire, les bactéries ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont un rapport au milieu qui est beaucoup plus faible que le nôtre, justement parce qu'elles n'ont pas ce cerveau extraordinaire qui est apparu il y a 200 000 ans, hein, à la suite d'une évolution extrêmement rapide des hominidés, entre 7 millions d'années, et maintenant ça s'est fait à une vitesse absolument ahurissante. Et ça, c'est une vraie question.
Et avant de passer la parole à la salle, comment définiriez-vous le sens ?
Mais je ne définis pas le sens. Je peux vous définir biologiquement ce qu'est le sens, je ne peux pas vous le définir. C'est comme la pensée. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans quel contexte vous voulez que je le définisse. C'est-à-dire que ce sont des termes qui sont terriblement polysémiques, donc on ne peut pas donner une définition générale du sens, on ne peut pas donner une définition générale de la pensée, ou même une définition générale de la machine, parce que je peux dire que le cerveau est une machine, à partir du moment où je considère qu'une machine, c'est quelque chose qui est fait de matière. Mais la façon dont fonctionne mon cerveau n'est pas la façon dont fonctionnent les machines qui sont construites par l'homme. Peut-être, j'en sais rien, parce que je ne sais pas comment fonctionne mon cerveau. Mon cerveau sait mieux comment moi je fonctionne que moi je ne sais comment fonctionne mon cerveau.
Donc retenez bien ça, la notion de sens est polysémique. Et y a-t-il des questions dans la salle ?
Monsieur ?
I hope you don't mind my asking the question in English. I'm Gerald Chandler.
Could you please tell us who you are?
Yes, I'm Gerald Chandler here in Paris for just a few months. I'd like to go back to your discussion of the Darwin test, as you called it, which was, imagine we have all of the data. Could the computer come up with the idea, the theory of evolution? And I'd like to break it up into two parts. Could it come up with any ideas whatsoever? And then could it test them? So concentrating only on the second part, could we imagine that here we give it, here's a theory. Is this data consistent with this theory? And I would say that Darwin himself would say, yes, theoretically, that the computer could solve this problem. Darwin, in his Origin of the Species, has a very, very long discussion of how it's possible that the eye developed. And he talks about how something could be photosensitive, and then another development take place, and another development take place. All of these developments, he couldn't have known that they worked or how they worked, but he was trying to answer all kinds of objections to the theory. So we could imagine a kind of evolution in machines, but this kind of evolution would be humans figure out how to program the machines. And the first step might be saying, here's a theory, I have this great idea, tell me whether it's right or not. And after we solve that problem, then we go on to say, machine, you generate ideas, and then you've already been taught by me how to test whether they're good or not. So to come back to the question is, what do you think of the idea that a machine could even test whether Darwin's theory is right?
Donc une machine peut-elle...
Oui, je pense qu'une machine pourrait tester avec les connaissances que nous avons. Je pense qu'une machine que nous utilisons d'ailleurs dans les laboratoires, comme vous le savez, peut très bien nous aider à tester les théories darwiniennes dans un cas précis. Celui de la construction de l'œil, par exemple, auquel vous faites allusion, qui est ce que Darwin présente comme une des objections principales à sa théorie, si vous en souvenez bien. C'est-à-dire que il y a une vraie question pour l'œil, c'est que est-ce que l'origine est-ce que l'œil a été inventé une fois et ensuite a évolué dans tous les phylums de façon différente, en commençant d'ailleurs par des algues unicellulaires où on voit déjà des petits pigments avec un œil primitif. Et Darwin était extraordinairement en avance quand il a pensé ça, puisque effectivement il y a des yeux prototypes dans des êtres unicellulaires qui ressemblent tout à fait à l'idée que se faisait Darwin d'un œil prototypique. Ou l'autre idée, qui a d'ailleurs été défendue par un grand évolutionniste qui s'appelait Mayer, que l'œil a été inventé. Et lui, à un moment, il disait 40 fois, d'accord ? Et ce qui est très étonnant, c'est que s'il a été inventé 40 fois, il a quand même la même tête. L'œil a une même tête, non, peut-être pas, mais enfin, ils se ressemblent tous, d'une certaine façon, même s'il y a des différences. Donc, comment répondre à cette question ? On peut poser la question à une machine, mais ce n'est pas la machine qui a résolu le problème. Ce qui a résolu le problème, c'est la génétique, c'est Walter Gehring. C'est l'invention d'un gène qui s'appelle PAX6. Est en train de démontrer qu'il est à l'origine de tous les yeux. C'est-à-dire qu'ensuite, sur cet œil prototypique qui est lié à l'expression d'un gène qui s'appelle PAX6, il y a toutes sortes de variabilités qui sont apparues après. Mais je crois que la réponse aujourd'hui à la question de Darwin, à laquelle Darwin ne pouvait pas répondre, et qu'il voyait effectivement comme un obstacle important, c'est que oui, il y a eu un œil prototypique, et qu'ensuite il y a eu des évolutions différentes de cet œil dans les différents phylums. Comment une machine pourrait nous répondre à cette question ? Ben, je ne sais pas, parce que sinon parce que nous les utilisons. Mais est-ce que la machine elle-même pourrait répondre à la question ? Encore faudrait-il qu'elle puisse se la poser. Voilà. Oui, c'est nous qui devons poser la question à la machine, même si elle nous aide à y répondre.
Hervé, vous êtes d'accord avec ça ?
Bien sûr, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alain Prochance, mais j'aurais tendance à dire que la question qui est posée fait partie du problème global, ça n'est qu'une illustration. Si les machines peuvent être conscientes et pensées, alors elles vont, comme nous le faisons, se poser des questions sur les théories, émettre elles-mêmes des théories, essayer de les tester, etc. Si elles ne peuvent pas penser et qu'elles ne sont que des exécutrices bêtes, des instructions qu'on leur donne qui ne vont pas plus loin et qu'elles n'ont aucune autonomie, à ce moment-là, elles ne se la poseront pas. Mais on pourrait donner des milliers d'illustrations différentes de toujours cette même question, qui est, est-ce que les machines peuvent à un moment donné se comporter comme nous le faisons ? Et je voudrais reposer peut-être le débat. Il y a trois questions qui me semblent essentielles pour comprendre de quoi on parle. La première question, qui transparaît un peu dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on admet qu'il n'existe rien d'autre que de la matière, donc basiquement des atomes, on peut se poser la question, qui est un des grands mystères, et personne n'a la réponse, comment se fait-il qu'un assemblage d'atomes sous une certaine forme extrêmement complexe, qui est le cerveau, puisse donner lieu à un phénomène de conscience de soi. Quand vous assemblez des atomes, eh bien, en général, ça ne fait pas ça. Et le même problème, d'ailleurs, se pose à un niveau plus simple, qui est la vie. Je pense que la conscience et la vie ont tous les deux, posent tous les deux à des matérialistes que nous sommes, une question du même genre avec la conscience à un niveau du dessus, c'est encore plus difficile. Comment est-ce qu'en assemblant de la matière inerte, on aboutit à, un, des choses vivantes, et ça peut-être qu'on y répondra dans pas longtemps, je ne sais pas, face à l'improfiance, est mieux placé que moi pour y répondre, mais j'en sais rien. Deux, comment est-ce que ça devient conscient, ce qui est le niveau du dessus, et ça, pour le coup, je pense qu'aucun d'entre nous, et personne dans cette salle, n'a la réponse. Ça, c'est la première question. Les deux autres questions, c'est pour revenir à Turing, c'est le sens inverse. Est-ce qu'un ordinateur, et un ordinateur, c'est très précis, c'est ce que fait une machine de Turing, peut à un moment donné imiter complètement le comportement d'un être humain, pas le concours de Lebner, une vraie imitation où on se casse le nez. Première question, réponse, on ne sait pas. Et deuxièmement, et ça me semble encore plus intéressant, imaginons qu'on arrive un jour à écrire des programmes tellement sophistiqués que véritablement, quand on a en face de soi une machine comme ça, on se dit « mais il est comme mon cousin », est-ce que pour autant cette machine pensera réellement ou est-ce qu'il se contentera d'imiter la pensée ? Et donc ces trois questions me semblent être au nœud du débat de ce soir. Et aujourd'hui, personne n'a la réponse à aucune de ces trois questions.
Merci pour cette clarification. Une autre question dans la salle.
Une autre question, oui.
Je suis un particulier qui donne des cours particuliers, donc je suis très intéressé par le cerveau et l'apprentissage. Et je voulais savoir, pour la définition du mot matérialiste, il y a, je pense, à plusieurs sens, si vous pourriez me le préciser. Matérialiste au niveau atomique, ou au niveau cellulaire, ou alors ça peut être les organes, ou c'est la physiologie, par exemple la physique molle, comme me disait M. Alain Brochion.
La physique n'est jamais molle. Hein. C'est la physique de la matière molle. Ah oui.
Alors, est-ce que vous englobez ces quatre aspects ou c'est plutôt atomique?
Non, mais c'est-à-dire que nous sommes faits de matière, c'est tout. C'est-à-dire que ça, je ne peux pas ne pas être d'accord avec... Nous sommes faits d'atomes, de particules. Mais elles sont assemblées d'une façon un petit peu étrange qui fait que nous pouvons nous reproduire, nous pouvons être amoureux, nous pouvons avoir toutes sortes de choses bizarres qui n'arrivent pas aux cailloux. Alors, il va falloir en rendre compte par des théories qui sont particulières, mais ce n'est pas du tout impossible qu'un jour... C'est ça qui est extraordinaire dans l'intelligence de Darwin, qui est quand même à la fois un des très grands mathématiciens du siècle dernier, un des très grands philosophes du siècle dernier, et aussi un des très grands biologistes du siècle dernier. Ce type-là est absolument fascinant. Mais ce qui est tout à fait fascinant dans la fin, justement, de l'imagine pense-t-elle, c'est qu'il y a une machine qui pense. On la connaît. C'est le cerveau humain. Et donc, si on veut comprendre comment on va construire une machine qui pense, essayons de comprendre comment se construit un cerveau d'enfant. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est extrêmement fort, parce que, bien sûr, que le cerveau d'enfant et d'adulte est fait d'atomes. Et donc, cette construction, eh bien, si on comprend comment ça se fait, on arrivera à comprendre comment on fait une machine qui pense, puisque dans chacun d'entre nous, il y a une machine qui pense, d'accord ?
Oui,
voilà, c'est aussi simple que ça, si simple, si j'ose dire. Mais les instruments théoriques dont vous avez besoin pour comprendre comment fonctionne un cerveau, et j'ai dit au départ que je ne savais pas, que les biologistes ne savent pas comment fonctionne le cerveau, donc je ne suis pas en train de vendre de la fumée. Mais les instruments théoriques dont nous avons besoin pour comprendre comment s'est construit un cerveau, je crois qu'on le comprend très bien à travers deux phénomènes qui sont l'évolution. Depuis que les premières molécules sont mises ensemble pour faire la première cellule, hein, donc si on arrive à retracer l'évolution, à faire de l'évolution expérimentale, créer une première cellule, créer une première plante, créer une première bactérie, et puis voir si on peut faire l'évolution, ou revenir aux bifurcations avec l'ancêtre commun que nous avons avec le chimpanzé, et refaire le chemin inverse pour voir qu'est-ce qu'il faut rajouter à un chimpanzé pour faire un sapiens. Donc tout ça, ça peut être abordable sur le plan expérimental, ou au moins par la pensée. La génétique permet de faire des manips par la pensée de ce genre-là. Alors peut-être que nous aurons un certain éclairage, grâce à des théories qui sont des théories biologiques, hein, la génétique c'est une théorie biologique, la reproduction c'est une théorie biologique, le développement c'est ce qui se pense avec des concepts et des outils biologiques, à comprendre comment c'est arrivé. Il n'empêche que, in fine, je n'ai absolument aucune réticence à penser que tout ça pourra rentrer dans le cadre de la physique. La seule réticence que j'aurais, c'est d'écrire que le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Ça, ce sera ma réticence, parce que je pense que c'est un point de vue idéaliste. C'est le point de vue de Galilée. D'ailleurs, c'est pour ça que Ratzinger est en train de faire une statue en pied dans les jardins du Vatican. Donc, ça, ce sera ma seule objection. Mais que la biologie devienne un jour une science de la matière, eh bien, oui, pourquoi pas. Je veux dire, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne.
Juste pour conclure, c'est la vision physiologique de la chose est aussi matérialiste pour vous, enfin, juste en définition des mots.
Il y a intérêt.
D'accord.
Merci. Une autre question?
Oui.
Pardon.
Alors, bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis artiste. J'ai quelques problèmes avec le mot intelligence artificielle. Enfin, l'artifice, c'est quelque chose qui masque quelque chose. Enfin, c'est un artifice, c'est donc quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui est refabriqué. On a tous plus de profondeur que l'apparence qu'on a. Et est-ce que l'ensemble des humains, en fait, connectés maintenant, ne sont pas quelque part une sorte d'intelligence ou conscience ubiquitaire? Est-ce que c'est pas une conscience ubiquitaire qui pourrait naître plus qu'une intelligence artificielle maintenue dans une seule machine, mais pas une conscience globale? Voilà.
Vous voulez dire, est-ce qu'il y a un niveau d'émergence supplémentaire qui vient
de la connexion? Oui, un niveau d'émergence, comme une matrioshka supérieure.
C'est quelque chose d'intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a trois formes d'hérédité. Il y a l'hérédité génétique. Hein, prenez une mouche, il sort une mouche, en général. Il y a la mémoire individuelle, l'individuation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on vit, on marque dans sa substance matérielle même l'histoire de sa vie. Et là, Sapiens, c'est particulièrement important parce qu'il est marqué dans son cerveau par les interactions qu'il a avec le monde. Et comme vous le remarquez de façon tout à fait judicieuse, ces interactions n'ont jamais été aussi importantes du fait de l'invention des ordinateurs, en l'occurrence, hein, le langage. Donc nous sommes construits par le monde, notre cerveau est construit par le monde. Et en même temps, c'est cette troisième mémoire, c'est celle qui passe de génération en génération, qu'on appelle la culture, c'est-à-dire que les artefacts que nous construisons, les livres que nous écrivons, les films que nous produisons, eh bien, font partie du milieu à partir duquel la génération suivante va commencer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on démarre de plus loin. Donc, oui, il y a trois mémoires, et aujourd'hui, nous vivons, j'en suis assez convaincu, c'est-à-dire que l'invention de toutes ces formes de communication qui fait qu'on est abreuvé d'informations qui parfois sont très intéressantes, je ne suis absolument pas hostile à ces questions, fait que notre milieu s'est enrichi de façon extraordinaire. Mais pour la génération suivante, ce sera encore mieux. Hein, mieux ou pire, j'en sais rien. De toute façon, on va dans le mur, quoi qu'il arrive. Donc, ça durera un certain temps, cette affaire. Puis après, bon, ben voilà. Hein. Toutes les espèces ont un début, un milieu et une fin. Hein. Donc la nôtre, tout aussi bien.
Des bactéries, nous retournerons aux bactéries.
Avant les bactéries.
Hervé Zvier veut dire un mot.
Je voudrais revenir sur l'idée que vous avez évoquée, parce qu'on a prononcé un mot là qu'on n'a pas prononcé depuis le début du débat, qui est le mot d'émergence. Et qui a quand même un rôle à jouer dans ce débat. L'émergence, c'est la faculté qu'à un certain niveau émergent des propriétés qui résultent de ce qui se passe au niveau du dessous, mais qui soient de nature du niveau du dessus. C'est-à-dire, grosso modo, l'exemple qu'on prend en physique, c'est la propriété de l'eau d'être liquide. Quand vous mettez beaucoup de molécules d'eau à température et à pression normale, l'eau est liquide. Mais une molécule d'eau toute seule n'est pas liquide, c'est quand vous en mettez beaucoup ensemble. Et donc, dans ce genre d'idées, on dit quelquefois que, plutôt que secrète, comme le foie secrète la bile, la conscience émerge de l'activité des neurones. Bon, c'est pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est un peu comme ça qu'on le dit, ce qui veut dire que quand vous regardez le fonctionnement des neurones, un neurone tout seul, il n'est pas conscient, mais l'ensemble des neurones aboutit pour des raisons qu'on ne comprend pas, au niveau du dessus, fait émerger la conscience. Eh bien, on peut, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut monter encore d'un cran et imaginer qu'on joue, nous, maintenant qu'on est tous connectés, le même rôle à un niveau du dessus du rôle que jouent les neurones dans notre cerveau et que donc il va émerger quelque chose d'autre. Oui, alors c'est évidemment un thème de science-fiction qui a été très largement exploité. Aujourd'hui, on peut dire que cette idée est intéressante, mais qu'on ne peut pas en dire grand-chose de plus.
Le système informatique est né grâce au flux de la finance. Le mot hébreu du mot argent, c'est le même que le sang. Enfin, il y a des grosses jonctions. Donc le flux sanguin du système planétaire, quelque part, c'est l'argent. Ça a servi à faire émerger cette informatique. Et est-ce que c'est pas au niveau de... S'il y a une émergence qui peut apparaître, c'est pas justement au niveau du système économique? Et est-ce que potentiellement, c'est pas ça qu'on est en train de percevoir aujourd'hui?
Mes invités déclarent forfait.
L'informatique est née du deuxième principe de la thermodynamique. D'accord. Oui. Non, il a émergé d'une théorie physique, du principe de Carnot, tout simplement. Hein. Donc, I égale colloque de P, c'est-à-dire que plus vous avez d'ordre, plus vous avez d'informations. Et le vivant, d'une certaine façon, pendant longtemps, on a pensé le vivant sur le même principe d'une théorie de l'information qui dérivait d'une théorie physique de la thermodynamique. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, en tout cas pas pour l'instant, et que s'il y a une physique à inventer pour le vivant, ce ne sera pas celle-là. Je pourrais vous dire pourquoi, mais on n'a pas le temps. Donc, non, l'information, ce n'est pas du tout une théorie des flux économiques. L'information, c'est une théorie qui est terrible. C'est totalement une... Il faudrait lire Brioin, il faudrait lire ce genre-là, mais je pourrais vous donner des notes de lecture. C'est, en fait, une théorie qui est une théorie de la physique. C'est le principe de Carnot. En fait, la théorie de l'information, c'est le principe de Carnot. C'est une analogie du principe de Carnot.
Une autre question avant que
deux autres questions.
La conversation ne devienne trop complexe.
Bonjour, donc je suis doctorant en didactique des langues et je travaille notamment sur les liens entre les neurosciences et la didactique. Donc je pense qu'au niveau de l'interpénétrabilité entre les sciences dures et les sciences molles, je pense qu'il faut vraiment citer justement donc l'émergence. Moi, je dirais plutôt les théories émergentistes. Les notions de complexité et du chaos qui vraiment viennent intégrer sur un niveau épistémologique les sciences du vivant et les sciences physiques et qui permettent de comprendre comment les atomes peuvent donner le vivant, peuvent donner la pensée, la cognition, etc. Et justement, je pense que ce qui différencie le cerveau de la machine, c'est justement que le cerveau, même chez le jeune enfant, n'est pas simplement dans l'imitation, mais à travers le flux d'input, on va avoir une réflexion intra et inter qui va permettre justement d'évoluer dans la simplexité. Donc c'est, on assume qu'il y a des processus, la simplexité, donc c'est Berthos qui cite la simplexité, c'est donc on a des systèmes complexes, mais qui sous-tendent des processus simples et efficaces de l'information. Et je pense que vraiment pour traiter la notion de cerveau et de machine, il faut rentrer dans ces théories émergentistes qui permettent d'aller plus loin dans le débat.
Mais c'est un problème... excuse-moi, vas-y. C'est un problème un petit peu plus compliqué parce que d'abord, il ne faut pas utiliser des mots. Les biologistes et les savants utilisent souvent des mots quand ils ne comprennent pas. Hein. En particulier, complexité, l'essence de la complexité. Alors, puis après, on dit chaos, alors que le chaos, il n'y a rien de plus structuré que le chaos. Ce n'est pas du tout un truc n'importe quoi. Donc, la façon, à mon avis, la plus rigoureuse de répondre à ces questions, c'est de comprendre sur le plan évolutif. Parce que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir faire de l'évolution expérimentale. C'est-à-dire qu'on peut prendre une souris, la modifier, lui faire faire des trucs. On pourrait faire de la tranche de neige chez le singe, si on voulait. On peut modifier les génomes. C'est-à-dire qu'on peut créer des formes animales et végétales nouvelles. Ça s'appelle des organismes génétiquement modifiés. Donc on a la chance de pouvoir faire de l'évolution expérimentale. Et on peut aussi essayer de faire les premières formes vivantes. Ça s'appelle la biologie synthétique. Il y a plein de programmes de biologie synthétique. C'est très intéressant. Donc la meilleure façon de voir comment ça fonctionne, c'est d'essayer de reproduire un processus évolutif qui nous amène aussi loin que possible. Et aussi de comprendre, grâce à l'analyse des génomes, mais pas uniquement des génomes, mais aussi de comment les génomes s'expriment dans un cerveau, dans certaines régions du cerveau, quelle est la différence entre un singe et un humain. Tout ça est sérieux, tout ça est expérimental, mais tout ça ne nous donnera pas la réponse immédiate, c'est-à-dire que ça se cherche. Donc vous savez, complexité, simplexité, émergence, chaos... la nature de la nature, comme disait notre ami Morin, Tout ça, c'est quand même... Il y a plus de fumée que de cristal, hein, pour faire une référence à...
Alors, Hervé Svian, qui est un spécialiste des systèmes complexes, va intervenir à ce sujet.
Je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de mots utilisés pour cacher des choses qui ne sont pas claires, qu'on ignore, et des mots qui sont lancés comme ça en l'air. Il y a effectivement un certain nombre de définitions très rigoureuses de certains termes qu'on peut appliquer dans certains cas précis. Le gros danger de ces choses-là, c'est que, par analogie, beaucoup de gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit les appliquent à tort et à travers, en croyant expliquer des choses alors que non seulement ils ont utilisé le mot quand il fallait pas, mais en plus ce mot n'est pas du tout une explication de ce qu'ils croient expliquer. Donc il faut faire très attention. Mais moi j'ai une question à poser. J'ai le droit de poser des questions aussi.
Oui,
j'ai le droit de poser des questions. Mais...
Cela dit, on va devoir...
Alors une question... Non, mais ça va être très très court.
Il y a une dernière question, en fait.
D'accord.
C'est très court.
Une question à qui?
Je voudrais poser une question à la prochaine, par rapport à une réponse qu'il a faite. Quand on dit le meilleur moyen de comprendre la conscience ou la manière dont ça se passe, c'est de regarder l'évolution et par exemple comment se transforme progressivement ou comment évolue le cerveau d'un enfant, d'un bébé, qui va recevoir des tas de stimuli et qui va se façonner avec ces stimuli puisque le cerveau il est en perpétuelle évolution lui-même. Il y a d'ailleurs des approches dans la robotique qui prétendent qu'on ne pourra arriver à faire des choses intéressantes dans ce domaine qu'en ayant des robots connectés avec l'environnement, c'est-à-dire qu'il faudra leur donner des stimuli externes. Mais je reviens là à la proposition. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on n'est pas déjà après le problème qui se pose? Quand un enfant naît, même un bébé, même si, oui, bien sûr, son cerveau évolue, oui, bien sûr, le cerveau d'un adulte n'est pas du tout le même que le cerveau d'un nourrisson ou d'un fœtus. Il n'empêche que le cerveau d'un fœtus, il est déjà là, et déjà, il fonctionne d'une manière qui est pour l'interrogation. Et donc, quand on se pose la question en amont, c'est-à-dire comment est-ce que cet assemblage de matière peut résulter en un cerveau, bien la question est déjà posée avant même que le processus d'évolution dont on parle, pour un individu, bien sûr, se déroule. Alors évidemment, on peut remonter plus loin et dire c'est l'évolution de l'espèce, c'est-à-dire que ça remonte à beaucoup plus loin. Mais dans ce cas, on n'explique toujours pas, sauf à dire ça s'est passé, on n'explique toujours pas comment cet assemblage de matière inerte a résulté en un truc aussi étrange et aussi mystérieux que le cerveau qu'on ne comprend toujours pas.
Oui, j'ai toujours dit qu'on ne comprenait pas, donc je ne suis pas étonné de ce que vous dites. Mais il y a quand même des fois où ça rate.
Oui.
D'accord. Malheureusement. Hein. Donc... Pourquoi est-ce que ça rate? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'être autiste? Qu'est-ce que ça veut dire de développer une maladie psychiatrique autour de 14-15 ans? Donc, il y a des maladies de la relation au monde, du rapport adaptatif au monde qui évolue quand les hormones, par exemple, vous font un orage incroyable dans le cerveau et ailleurs, hein? Et où on n'est plus la même personne, où les gens ne vous regardent plus de la même façon, où vous ne regardez plus les gens de la même façon parce qu'ils ont des caractères sexuels secondaires et que vous en avez aussi, que c'est étrange de vous voir comme ça. Si le cerveau n'évolue pas en même temps à ce moment-là, c'est-à-dire si le rapport adaptatif que vous avez avec le monde, y compris vous-même, ne change pas, alors vous allez être dans une mauvaise passe. Et donc quand ça rate... Eh bien, ça peut permettre peut-être, hélas, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que ce rapport adaptatif chez Sapiens, qui est particulièrement riche chez Sapiens, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des plantes, nous ne sommes pas des bactéries. Donc oui, je crois que vous avez raison, Sapiens est en puissance dans l'embryon, mais tous les Sapiens ne se développent pas de la même façon, et parfois la manip rate. Voilà. Et ça peut donner, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en afflige, une ouverture sur la façon dont un cerveau se construit dans le monde.
D'autant que la première cellule de l'embryon pense déjà.
Absolument. La première cellule d'embryon a un rapport adaptatif au monde. Et en particulier, si vous stressez, c'est pour ça qu'on parle toujours des mères porteuses comme des utérus artificiels, référence de nouveau à notre ami Atlan, eh bien on a tort de le faire, parce que le milieu... qu'est une mère porteuse n'est pas un milieu neutre, il agit sur l'embryon, et l'embryon s'adapte à ce milieu, éventuellement même par des modifications génétiques. On le dit épigénétique, mais en fait, elle peut être génétique, parce qu'il y a ce qu'on appelle des ADN sauteurs qui peuvent absolument modifier le génome en fonction du milieu. Oui, c'est une façon non consciente de penser, mais c'est une façon de s'adapter au monde. Ça veut bien prendre la définition biologique, hein, et pas uniquement linguistique ou logique du terme pensée que j'ai proposé au début, mais que personne n'est obligé d'accepter, M. Posselt-Guinet.
Oh, mais je suis tout à fait prêt à l'accepter. Une dernière question.
Une dernière question.
Oui, bonsoir, Michel Thébault. Je voulais savoir le fonctionnement des ordinateurs est discret, c'est-à-dire c'est une succession d'opérations, de lignes de commande. Comment fonctionne la pensée humaine de façon continue ou discrète?
Il y a plusieurs choses. D'abord, la pensée humaine, on a une impression qu'elle est continue. Mais il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites et qui montrent que cette impression de continuité est une illusion. Et en réalité, nous nous racontons une histoire par rapport à ce que nous percevons et on reconstruit en permanence l'histoire de ce que nous percevons. Mais il n'y a pas une unité complète de notre conscience, il n'y a pas une continuité. Cette conscience est fragmentée. On peut le voir dans l'état d'expérience. Il y a une expérience qui est ancienne, mais qui est illustrative de ça, qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Libet, et qui est une expérience où vous avez des points lumineux. Vous avez deux points lumineux qui sont séparés l'un de l'autre dans le champ visuel, un rouge et un vert. Et lorsque vous prenez d'abord la même couleur, vous prenez deux points lumineux verts, et vous allumez l'un, puis l'autre. Et l'impression qu'on a, c'est de voir non pas un point qui s'allume, qui s'éteint, et un autre qui s'allume et qui s'éteint, à condition de prendre la bonne séquence de temps, mais on a l'impression d'avoir un point qui se déplace. Et puis, on change l'expérience, et on fait un point lumineux rouge qui s'allume, qui s'éteint, et l'autre point lumineux change de couleur, il devient vert. Et à ce moment-là, quand on demande au sujet ce qu'il a vu, il dit qu'il a vu un point lumineux qui s'est déplacé et qui a changé de couleur au milieu du trajet. Au milieu du trajet, c'est-à-dire là où il n'y a pas de point. Il a donc reconstruit quelque chose, comme dans le cas où la couleur ne change pas. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que le cerveau a remis dans l'ordre chronologique quelque chose de manière à donner l'impression qu'on a perçu un point lumineux qui a changé de couleur au milieu du trajet, c'est-à-dire avant que le point lumineux s'allume réellement. Donc, cette expérience montre, par exemple, que l'ordre chronologique des événements qu'on perçoit, qui nous paraît nous parfaitement continu, est en fait reconstruit a posteriori par le cerveau. Alors ça, c'est un des exemples, on peut en imaginer beaucoup d'autres. Ça s'appelle l'expérience phi. L'expérience qu'a fait Libet est différente, elle consiste à stimuler directement le cortex cérébral pour donner une impression, quand on stimule les bonnes zones du cortex, on a une impression, par exemple, de sensation dans la main. Et il stimulait à la fois la main droite à un moment donné et le cortex droit qui donne une sensation dans la main gauche. Et lorsqu'on demandait au sujet quel était l'ordre dans lequel il avait senti ces stimuli, eh bien l'ordre qu'il donne est inverse de l'ordre dans lequel ça s'est réellement passé. Tout ça pour l'interprétation de ça a été beaucoup discuté, mais tout ça pour dire que la conscience n'est pas un phénomène continu, c'est un phénomène qui est discret, et cette illusion en fait d'unité et de continuité n'est qu'une illusion, n'existe pas vraiment. Alors maintenant, quel lien avec les ordinateurs? Les ordinateurs sont discrets, mais en même temps sont capables de simuler des phénomènes continus. Et lorsqu'on veut simuler la conscience sur un ordinateur, on peut parfaitement imaginer que l'ordinateur discret va simuler, comme on le fait en mécanique des fluides, où avec des ordinateurs discrets, on va simuler des écoulements continus, on peut simuler aussi un phénomène qui pourrait être continu. Donc la réponse, elle est double. Un, les ordinateurs sont discrets, mais ils peuvent simuler des phénomènes continus. Deux, la conscience paraît continue, mais en fait, c'est une illusion et elle ne l'est pas. Bon. Alors avec tout ça, vous mettez tout ça ensemble on va se coucher. Et ça montre que le problème reste entier, mais qu'il n'y a pas de barrière absolue ni de réponse qui puisse dire oui ça marche ou ça marche pas. Pour le moment, tout est ouvert.
Tout est ouvert, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un débat très très passionnant et enrichissant pour moi, en tout cas, j'espère pour vous aussi. Je voulais vous dire que si certains d'entre vous ont envie de s'amuser à poursuivre ce débat. et la disponibilité de le faire. Nous avons, j'organise une discussion demain avec un spécialiste de l'intelligence artificielle au théâtre de l'Odéon à 18h30, Frédéric Kaplan, qui est chercheur à l'école polytechnique de Lausanne et qui est un spécialiste des relations entre le cerveau et la machine, ces deux mots étant pris au sens le plus simple du terme.
Merci beaucoup Olivier Postel-Vinet, merci à nos invités. Je vous rappelle que si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez aussi consulter les collections de la Bibliothèque publique d'information et retrouver ce débat ainsi que tous ceux que nous avons déjà programmés, enregistrés sur le site web de la BPI.